Chapitre 5. À Verbois, rien de nouveau n'était survenu. La fin de septembre approchait. Les feuilles des marronniers, desséchées sur les branches, tombaient en tourbillonnant au milieu des allées tristes. Les premières bises messagères de l'hiver s'étaient annoncées depuis quelques matins. Les hirondelles se préparaient à émigrer vers des cieux plus cléments. Et déjà, les pics neigeux des Alpes savoisiennes s'enveloppaient du voile de nuages noirs dont ils ne se débarrassent plus qu'au retour du printemps. Monsieur de La Rochetière, qui avait peut-être fini par saisir la justesse des observations de Claudius, ne paraissait pas décidé à mettre à exécution les rigueurs dont il regrettait d'avoir menacé sa fille, car le moment de la rentrée des classes allait venir, et Diane, prête à tout subir, n'avait plus entendu parler ni de Grenoble, ni du couvent où sa jeunesse avait été pétrie par des mains dévotes. Un matin, un peu avant le lever du soleil, tandis qu'à l'auberge du repos, bêtes et gens dormaient encore, trois coups, énergiquement frappés, ébranlaient la porte d'entrée et mettaient en émoi les centaines de mouches qui tigraient de taches foncées le plafond de la grande salle. À cet appel répété, une voix de femme répondit de l'intérieur « On y va ! On y va !» Plusieurs minutes s'écoulèrent, la même voix mâchonna quelques mots d'impatience, puis un bruit de savate nonchalamment traînée s'entendit, une clé tourmenta la serrure et la porte s'ouvrit, inondant la salle du flamboiement du dehors. « Votre serviteur, Madame Lajoie, dit Monsieur de La Rochetière, le fusil à l'épaule, son carnier au dos, en entrant. « Votre servante, monsieur le baron, fit l'hôtesse, une gaillarde frisant la quarantaine, haute en couleur, aux quenottes blanches, au poitrail affriolant. Je ne m'attendais pas à l'honneur de votre visite, surtout à une heure si matinale. Je n'ai pas fait comme vous, paresseuse, qui semblait vouloir laisser croire que les rayons de ce beau soleil ne pénètrent pas jusque chez vous. Il faut pourtant bien que j'en convienne. » poursuivit Madame Lajoie en entrebâillant les persiennes des fenêtres. « Je me suis rendormie peu après le départ de mon homme pour la ville où il est allé porter une charretée de paille. Je sommeillerai probablement encore si vous n'étiez venu fort à propos heurter à la porte. » Revenant vers Monsieur de La Rochetière, elle ajouta avec son plus joli sourire « Monsieur le baron s'est, sans aucun doute, arrêté ici avec l'intention de se reposer. » « Que dois-je lui servir ?»« Donnez-moi du rhum et de l'eau fraîche, » dit le père de Diane, qui, après avoir déposé son fusil contre le buffet, s'était assis devant la longue table de chêne qui occupait le côté gauche de la salle. « J'en boirai volontiers quelques gorgées avant d'aller brûler de la poudre avec les amis qui devaient se trouver chez vous à 6 heures précises et qui, si j'en crois ma montre, m'ont tout l'air d'être en retard. » À peine achevait-il ces paroles que Berthelin apparut, suivi du jeune marquis Patrice. « Ah, pardon, souffla-t-il, mauvaise langue, je proteste. Le quart d'heure de répit n'est pas écoulé. »« Monsieur Berthelin a raison, approuva Monsieur de Montbel. Voyez la pendule, 6h12. »« Ah, comme je vous le disais, s'écria Berthelin triomphant. »« Alors, c'est moi qui suis en avance, avoua le baron. » « Maintenant, prenez place. » Élevant la voix, il appela l'hôtelière qui s'était retirée pour aller quérir la consommation demandée. « Veuillez nous apporter 3 autres verres, lui dit-il lorsqu'elle reparut. Elle salua ces messieurs, disparut de nouveau et revint, portant sur un plateau la carafe dont la fraîcheur de l'eau ternissait la transparence, la topette de rhum, le sucrier de faïence au couvercle ébréché, les verres, posa le tout sur la table, puis se retira discrètement. Berthelin et le marquis étaient assis en face de Monsieur de La Rochetière et, leur le faucheux entre les jambes, reprenaient haleine. Pendant que le baron emplissait les verres, Monsieur de Montbel lui demanda « Pensez-vous que Monsieur Laurent se rende, comme nous, à votre aimable invitation ?»« Il n'en faut pas douter, quoi qu'il tarde. » Vous savez que, quand, par extraordinaire, il se fait attendre, c'est malgré lui. « Désirez-vous de l'eau, cher monsieur Berthelin ?» reprit le marquis. « Merci, merci, » répondit l'ancien chef de bureau. « Je suis tout en moiteur. Je préfère m'en passer. Par un temps pareil, la continence n'est jamais en mal. » « Toujours la manie des petits soins !» observa malignement M. de la Rochetière. « Vous avez tort, » continua Patrice qui venait de boire. « Cette eau glacée est un vrai nectar. Avant 10 années, vous aurez changé d'avis. » Et, s'adressant au marquis, Berthelin interrogea « Eh bien, partons-nous. Il conviendrait, ce me semble, de ne pas nous séparer du baron. » Et ne vous mettez pas en peine pour si peu. Sitôt que le juge sera arrivé, la Rochetière nous rejoindra. C'est cela, prenez les devants, acquiesça le baron en quittant sa chaise. Vous ferez patienter Dominique, la meute doit s'exaspérer. Monsieur de Montbel et Berthelin s'étaient dressés. Où le trouverons-nous ? Demanda ce dernier. Au carrefour du Rocher Fendu. C'est là que nous vous attendrons, dit Patrice. La proposition est acceptée. Au revoir. Au revoir. On se sépara sur ces derniers mots. Monsieur de la Rochetière essayait de faire bonne contenance, mais intérieurement, il maudissait son ami Claudius. 6h25, murmurait-il, la mine allongée en regardant sa montre. Pour peu que nous tardions encore, nous ferons de la jolie besogne. Et ce diable de juge qui ne paraît pas. Cependant, si ses occupations l'avaient retenu, il m'aurait averti. D'autre part, son caractère, ses habitudes d'ordre, ne me permettent pas de supposer qu'il ait oublié de sauter du lit. Ma parole d'honneur, c'est à n'y rien comprendre. Et, ne sachant plus que devenir, il se disposait à allumer un cigare, quand soudain, Claudius, qui avait aussi revêtu son costume de Nemrod, cria derrière lui « Me voici, baron de mon cœur, me voici, ne vous impatientez pas. » Il était temps, avoua M. de la Rochetière en lui rendant ses poignées de main. Je ne savais plus à quel saint me recommander. Prenez-vous-en à ces satanées moletières, reprit le juge sans songer à s'asseoir. Elles sont cause de tout. Au moment de partir, crac, deux de leurs boucles se détachent. Au lieu d'écouter ma femme qui se préparait à les recoudre, je m'obstine à rechercher l'autre père, car j'en possède une autre paire. Je furette dans tous les recoins, sous tous les meubles. Pas l'ombre d'une moletière, rien. À la fin, il a fallu se résoudre à attendre que les boucles des premières fussent recousues. Et j'avais voulu gagner du temps. Reposez-vous, nous partirons après. J'y consens d'autant plus volontiers que nous sommes livrés au bon plaisir du marquis et de Berthelin, deux sybarites qui, toutes les fois qu'ils sont forcés d'aller à pied, font 1 kilomètre par 24 heures. Ne vous moquez pas d'eux, mon cher Claudius, car ils vous ont précédé. Vrai ? Je gagerai qu'ils ont déjà atteint le Rocher Fendu. Sac à papier, que ne le disiez-vous ? Exclama Laurence, qui reprenait précipitamment la tiraille de chasse dont, trompé par les apparences, il avait cru pouvoir se défaire. Partons, partons. En un tour de main, le baron fut prêt. Sur le seuil, les deux amis durent se garer pour éviter Dominique, qui, la tête nue, les vêtements en désordre, se dirigeait vers l'auberge en courant. « Au secours, monsieur » s'écria-t-il. « Au secours !»« Qu'y a-t-il ? Et pourquoi crier ainsi ?» demandant, en revenant sur ses pas, M. de la Rochetière, troublé. « Ah, quel malheur, monsieur !» continua le domestique concerné. « On vient d'assassiner Monsieur de Montbel !»« Où ça ?» fit le juge de paix, qui, jusque-là, s'était contenté de suivre le dialogue sans trop comprendre. « Là, à l'entrée du bois !»« Il n'y a pas un instant à perdre !» commença le baron. « Hardi, hardi !» interrompit Claudius en se faisant précéder par Dominique. « Conduis-nous vers lui !» Et tous trois s'élancèrent à travers champs. Il n'avait pas fait 500 pas que Diane entrait à son tour dans la salle en ce moment déserte. La pauvre amoureuse, appelée par une lettre de Julien, dont, malgré l'étroite surveillance exercée autour de sa personne, elle continuait à recevoir de loin en loin des nouvelles, s'était décidée à accepter l'entrevue que celui-ci la suppliait de lui accorder. La partie de chasse projetée par son père lui offrait une occasion favorable. Elle résolut d'en profiter, quelle que dût être la conséquence de sa détermination. Vêtue simplement, afin de ne pas donner l'éveil aux paysans, la tête couverte d'une mantille blanche, elle s'était donc bravement mise en route toute seule, et c'est en revenant de ce rendez-vous, d'où, pour la soutenir dans sa lutte entreprise, elle rapportait des forces nouvelles, qu'en suivant le sentier à peine tracé que Taillefer lui avait conseillé de prendre pour retourner plus vite à Verbois, elle aperçut tout à coup M. de la Rochetière, le juge de paix et Dominique. Tremblante à l'idée qu'elle pouvait être reconnue, clouée au sol par la surprise, elle resta quelques minutes blottie derrière un buisson. Ce ne fut que lorsque les trois hommes eurent disparu dans l'éloignement qu'elle sortit de sa cachette. Mais la stupeur causée par cette rencontre avait à ce point bouleversé sa raison que, sans se rendre compte de ce qu'elle faisait, sans réfléchir au singulier rôle qu'elle jouerait, ni comment elle expliquerait sa présence en pareil endroit si le maître du logis, grossièrement moqueur ou quelque roulier mis en joie par des libations récentes, lui adressait la parole, elle s'était jetée dans l'intérieur de l'hôtellerie. Il fallut le claquement d'une porte pour lui faire saisir l'imprudence de sa conduite. Alors, redoutant plus que jamais d'être vue, effrayée par des pas encore éloignés, vivement, elle ramena sa mantille sur ses yeux et sortit. Diane avait eu raison de se méfier. Madame Lajoie, qui, étonnée de ne plus entendre parler ses clients, revenait par la cuisine, faillit se trouver nez à nez avec elle. Quoique dans sa précipitation, M. de la Rochetière eût oublié de payer son écho, l'hôtesse, dont il était connu depuis longues années, ne manifesta aucun étonnement. Elle ferma la porte, débarrassa la table et remonta à sa chambre en se disant « Ils sont partis, tant mieux, cela prouve qu'ils reviendront. Peut-être même, ces messieurs ayant pour habitude de ne pas détester les bons morceaux, faudra-t-il préparer la broche ?» En attendant cette aubaine, je vais me coiffer, car franchement, je ne suis pas présentable. » Comme elle achevait, la porte se rouvrit, livrant passage au baron et à Claudius, qui avançaient à petits pas, soutenant M. de Montbel, blême et sanglant. Berthelin, morne, accablé, marchait derrière eux, en portant le lefaucheux et la gibecière du marquis. Entré l'un des premiers, Dominique, l'homme précieux par excellence, s'emparait d'une chaise et se préparait à installer commodément le blessé. « Ne vous pressez pas, disait M. de la Rochetière à Patrice, nous sommes rendus, le plus difficile est fait. » Berthelin, en train de déposer les fusils contre la rampe de l'escalier qui conduisait aux appartements, s'écria « Ah ça, on assassine donc en plein jour par ici ?» Claudius l'interrompit brutalement. « Qui vous dit, d'abord, que nous ayons affaire à un assassin ?»« Et il me semble, sous les apparences... » balbutia Berthelin, confus. « Les apparences, poursuivit Laurence avec autorité, ne regardent que moi, qui, vu la circonstance, vais, en ma qualité de magistrat, ouvrir une enquête. Par conséquent, plus un mot sur ce sujet. » Le baron, aidé de son domestique, venait de faire asseoir le marquis. « Là, reprit-il, vous voilà comme chez vous. Ne bougez plus jusqu'à nouvel ordre. » « Je ne saurais trop regretter la peine que je vous donne, dit M. de Montbel. Vous m'envoyez confondu. »« Comment vous sentez-vous à présent ?» demanda le pianiste. « Oh, mieux, beaucoup mieux. Je ne perds plus de sang, la fièvre disparaît, les forces reviennent, et, si cela ne vous déplaît pas trop, nous reprendrons la partie si intempestivement interrompue. »« Ta, ta, ta !» fit Claudius. « Nous avons, vous et moi, d'autres chats à fouetter. » Pour commencer, je vous consigne sur cette chaise jusqu'à l'arrivée du médecin que Dominique va aller prévenir en mon nom. « Monsieur le juge n'a pas d'autres ordres à me donner ?» demanda le maître Jacques de Verbois. « Si !» Il sortit son portefeuille de sa poche, écrivit rapidement 6 ou 7 lignes sur une page de papier blanc, déchira la feuille et, la remettant à Dominique, ajouta « En traversant le village, tu remettras ce billet à la gendarmerie. » « Allons, haut le pied, et ne t'amuse pas à compter les cailloux le long du chemin. » Le domestique parti, la porte close, Claudius reprit la parole. « Monsieur le marquis, dit-il, d'après le désir que vous manifestiez tout à l'heure avec tant de crânerie, je dois conclure que vous aurez assez de force pour supporter les lenteurs des formalités que je vais être obligé de remplir. » « Oh, parfaitement, répondit Patrice, mais l'enquête projetée est loin de me paraître absolument nécessaire. Je trouve même qu'il serait sage de ne plus s'occuper de ce malencontreux incident autour duquel, si nous suivons vos conseils, les gazettes feront, dans quelques heures, un tapage que je voudrais éviter. » Je ne partage pas votre manière de voir. Un coup de feu, tiré nous ne savons par qui, a manqué vous arracher à l'affection de votre famille ainsi qu'à l'amitié que nous avons pour vous. La Providence, en me plaçant auprès de vous, presque au moment où vous étiez blessé, m'a commandé l'accomplissement d'un devoir. Pour ma conscience d'abord, et ensuite, pour la société dont j'ai l'honneur de défendre les intérêts, je dois mener à bout cette mission. Ayez donc confiance, je vous promets de faire éclater la vérité. Laissez-moi manœuvrer à ma guise, avant peu, nous saurons si vous avez été victime d'une simple maladresse ou si, au contraire, c'est une tentative de meurtre qui a été dirigée contre votre personne. Je suis en tout point de l'avis du juge, déclara M. de la Rochetière. S'il y a un coupable, il faut que justice soit faite. Et vous, quelle est votre opinion ? Interrogea Laurence en se tournant vers Berthelin. Je me rallie à la majorité. Vous le voyez, marquis, il ne vous reste plus qu'à vous soumettre. Je me soumets, puisque vous me mettez dans l'impossibilité d'agir autrement. À la bonne heure. Puis, s'adressant au baron, le juge ajouta « Et madame Lajoie, qu'est-elle devenue ?»« Elle doit être chez elle, lui fut-il répondu. Il faut la rappeler. »« Madame Lajoie !»« Eh, madame Lajoie !» répéta Berthelin. L'hôtelière, qui, d'ailleurs, avait entendu les éclats de voix de ces messieurs, fut prompte à accourir. Claudius ne lui donna pas le temps d'ouvrir la bouche. « Préparez-moi, lui dit-il, une table avec ce qu'il faut pour écrire. Cela fait, comme il convient de tout prévoir, vous dresserez un bon lit dans votre plus jolie chambre. Notre intéressant blessé a besoin de beaucoup de ménagement. » « Un blessé ? » fit madame Lajoie très surprise. « Ne vous effrayez pas. Allons, dépêchons, madame, nous sommes pressés. » « Oh, pauvre jeune homme !» gémit la sensible hôtesse, le regard attaché sur Patrice, dont la pâleur ne lui déplaisait pas. « Il a l'air doux comme un Jésus !» Et, sans plus de réflexion, elle se mit en quête d'un tapis, d'un porte-plume et d'une écritoire. Pendant qu'elle allait et venait, Laurence, attirant Berthelin à l'écart, disait « Vous, vous me servirez de greffier !» Nous perdrions des instants précieux si nous étions obligés d'attendre le titulaire. « Moi, remplacer votre greffier ?» répliqua le pianiste. « Mais, bon Dieu, le voudrais-je que je ne le pourrais pas ?»« C'est cependant chose facile. Vous n'aurez qu'à résumer succinctement les questions que j'adresserai, soit à M. de Montbel, soit aux témoins, et les réponses qui me seront faites. » Encore faut-il, pour remplir ses fonctions, une certaine habitude, une intelligence au-dessus de la moyenne. Eh non, s'il s'en fallait tant soit peu, ce n'est pas à vous que je m'adresserai. Voici encre, plume et papier, dit madame Lajoie. Je vous remercie, répondit le juge de paix. Ah, une dernière recommandation. Ayez l'obligeance de veiller à ce que les badauds ne viennent pas nous déranger. La porte est interdite à tout le monde, excepté à la gendarmerie. Dès que l'hôtelière très intriguée se fut retirée, M. de la Rochetière s'assit auprès de Patrice et Claudius, qui devenait le seul maître de la situation, prit place devant la table, dont un tapis de reps vert, taché de jaune, cachait les jambes fatiguées par de trop longs services. « À votre poste, greffier, dit le juge, qui ne plaisantait plus, en invitant Berthelin à venir occuper, auprès de lui, la chaise qu'il attendait. « Je ne sais pas si je dois... » objecta timidement le pianiste. « Faudra-t-il pas vous sommer ?»« Voyons, Berthelin, implora le baron, soyez raisonnable. » L'ancien chef de bureau n'osa plus résister, mais ce ne fut pas sans gémir. « Dans quelle galère suis-je venu me fourrer ? Si jamais on m'y repince ?»« Y êtes-vous ? » reprit Claudius. « J'y suis. » »« Je commence. Et d'abord, monsieur le marquis, il importe de préciser exactement l'heure à laquelle le crime, si crime il y a été commis. Consultez vos souvenirs avant de rien préciser. » Patrice répondit sans hésitation. « La précaution est inutile, tant les détails que vous me demandez sont encore présents à ma mémoire. Il pouvait être 7h15 à ce moment-là, puisque nous avions laissé le baron dans cette salle vers 6h30 et qu'il faut environ 15 minutes pour gagner d'ici le carrefour du Rocher Fendu où j'étais. À quelques 100 mètres de moi, M. Berthelin chassait aux petits oiseaux. Mon lefaucheux armé à la main, l'esprit inoccupé, je marchais seul, à l'ombre des haies d'églantiers qui bordent le chemin, vers le bois de Bellefontaine, à l'entrée duquel il avait été convenu que le domestique de M. de la Rochetière et nos chiens nous attendraient. Soudain, en face de moi, un coup de fusil retentit. La décharge m'atteint au côté droit. Je distingue vaguement un panache de fumée blanche, je veux crier au secours, mes forces trahissent ma volonté, mes yeux se troublent et je m'affaisse à l'endroit où vous avez pu me voir évanoui. Passons sur ces premiers détails. Après la détonation, n'avez-vous rien aperçu derrière la haie ? Rien, les menues branches des églantiers n'ont même pas été agitées. Vous connaissez-vous, dans le pays, quelque ennemi capable de préméditer et de mettre à exécution un assassinat ? Non, monsieur, j'étais encore fixé à Paris au commencement de la présente année. Il n'y a donc pas assez longtemps que j'habite le Dauphiné pour que j'aie pu m'y créer des inimitiés. Une imprudence ne ferait-elle pas admettre le coup de feu dont vous parliez ? Cette idée ne vous est-elle pas venue à l'esprit ? Placés ainsi que nous l'étions, M. Berthelin et moi, une imprudence était impossible. Tout cela est étrange. Vous trouvez ? Évidemment, car si le vol avait été le mobile du crime, au lieu de vous abandonner sur place, l'assassin aurait commencé par vous dépouiller et il n'en a rien fait. Et personne ne le dérangeait. Cela étant, il nous sera d'autant plus difficile de mettre la main sur lui. « En êtes-vous absolument convaincu ?» fit M. de Montbel, dont la voix se raffermissait. « Absolument, » répondit le juge. « Alors permettez-moi de vous avouer que nous n'envisageons pas les faits de la même façon. »« Pardon, parlez clairement. »« À vous dire vrai, je crains fort que vous abandonniez la bonne piste pour suivre la mauvaise. » Ce serait regrettable et possible, la justice étant, malgré ses excellentes intentions, capable d'erreurs. Mais puisque vous n'avez qu'une confiance relative en ma perspicacité, je n'ai pas dit cela. Vous l'avez pensé, ce qui revient au même. Veuillez m'apprendre dans quel sens je dois diriger mes investigations. Je vous promets d'utiliser vos remarques si elles doivent m'amener à la connaissance parfaite de la vérité. M'est avis qu'un seul homme peut être soupçonné. C'est quelqu'un que vous connaissez mieux que moi, répliqua évasivement Patrice. « Je vous demande son nom, » insista Claudius. « Monsieur Taillefer. » Allons donc, Monsieur Taillefer a derrière lui un passé d'honneur qui, même aux yeux des plus susceptibles, répond de tout le reste de sa vie. L'accusation que vous portez contre lui est si peu fondée que lorsque publiquement vous vous lèverez pour le désigner au cou de la loi, vous ne serez ni écouté ni cru. 1000 protestations indignées s'élèveront en sa faveur. « Qu'importe, je doute que ces protestations soient plus probantes que des faits. »« Tâchez de ne rien oublier, vous, » recommanda le juge, penché sur Berthelin, qui suait à grosses gouttes en écrivant. S'adressant de nouveau à M. de Montbel, il continua. « Êtes-vous certain de ce que vous avancez ?»« Mais non, » s'empressa de déclarer Patrice, « puisqu'il m'a été impossible de voir l'individu qui a tiré sur moi. » « Eh bien, alors ?»« Je n'ai que des soupçons, soupçons que le plus banal des raisonnements peut justifier. »« Je vous devine, d'après vous, le déboire d'avoir été plus que durement éconduit le jour où il se présenta à Verbois pour demander au baron la main de sa fille, la préférence que l'on montra pour vous, aurait allumé la haine dans le cœur de celui qui se considérait comme votre rival et, plus tard, devant la certitude d'un échec, armé son bras. » C'est cela, c'est bien cela. Le caractère impétueux de M. Taillefer l'expliquerait dans une certaine mesure, mais par elle-même, elle n'est pas suffisante. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait qu'elle fût appuyée sur des charges autrement graves. La suite de l'instruction ne pourrait-elle pas en révéler ? Si fait, mais il est fort probable que cela n'arrivera pas. Vos soupçons seront réduits à néant si... Comme j'en suis persuadé, M. Taillefer, dont nous avons peut-être eu le tort de nous occuper, justifie de l'emploi de sa matinée et nous prouve, par là même, qu'il est incapable de sacrifier sa dignité sur l'autel des misérables rancunes. L'apparition de Dominique interrompit ses préliminaires sur lesquels il n'était pas sûr que le ministère public pût, par la suite, établir l'accusation. En l'apercevant, le juge, impatient de savoir comment avaient été exécutés ses ordres, abandonna son siège. « Eh bien, quelle nouvelle » demanda-t-il. « Le coupable est arrêté, » répondit Dominique. « Où est-il ? Les gendarmes que je précède vont le conduire devant vous. » « Quelques vagabonds, sans doute ?»« Non, monsieur, non !» dit le domestique avec les marques non équivoques d'une colère contenue. « Ce n'est pas à un vagabond, c'est à monsieur Taillefer que l'on a mis les menottes. »« Ah ça, radotes-tu » s'écria Claudius. « Je ne radote pas du tout. Je connais très peu le percepteur, mais je l'ai vite reconnu. Allez !»« C'est lui qui est soupçonné d'avoir fait le coup. » Un garçon si honnête, je vous demande, monsieur, si cela a l'ombre du sens commun. Que vous disais-je ? Dit Laurence en lançant à Patrice une œillade significative à laquelle le rancunier jeune homme répondit par un sourire d'incrédulité. Le brigadier est-il là avec ses hommes ? Reprit Claudius. Oui, monsieur, dit Dominique, qui, pour s'en assurer, venait d'entrouvrir la porte de la rue. Qu'il entre ?